Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ça klaxonne hein, en ce moment en direction de Paris.
L'impatience des automobilistes surpris par l'élan qu'on voit de tracteurs. Les agriculteurs en colère veulent bloquer ce matin les portes de la capitale. Nous serons avec eux dans un instant. La mission de l'armée française au Sahel est-elle un échec? Ce sera la question du 8h après la mort des 13 militaires au Mali. 41 soldats français tués depuis 2013 dans la région. Et les terroristes sont toujours actifs. Et puis la réforme des retraites, quand les syndicats font tout pour mobiliser le secteur privé. Les infos d'Anaïs Bouissou dans ce journal.
La météo Louis Baudin avec un temps agité.
Oui exactement, typique de cette petite tempête d'automne où on aura des passages nuageux, des éclaircies. Tout ça va alterner au fil des heures. Sous les passages nuageux, des averses, ça circulera d'ouest en est sur toutes les régions. Le vent sera fort, 80 km/h dans les terres, 100 km/h sur le littoral de la Manche. Ça donnera un petit peu de neige en montagne. Et puis le soleil reviendra des Pyrénées à la Méditerranée avec l'aide d'un peu de Mistral et de Tramontane. Les températures vont commencer à baisser. Encore 9 à 14 degrés quand même cet après-midi dans la moitié nord et 14 à 17 dans le sud.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Une nouvelle fois, la campagne s'invite à Paris et ce n'est pas pour le salon de l'agriculture, plutôt pour celui de la colère. Colère de se sentir trahi par la loi alimentation entrée en vigueur au début de l'année. Elle devait rééquilibrer les rapports commerciaux avec la grande distribution, mais de l'aveu même du ministre de l'Agriculture, le compte n'y est pas. Les revenus des éleveurs et producteurs n'ont pas augmenté et depuis ce matin, 1000 tracteurs convergent vers Paris à l'appel de la FNSEA. Tous ont rendez-vous à 10h, avenue Foch. Samuel Goldschmidt, vous suivez un convoi parti de Vitry-les-Reims sur l'autoroute A4.
Voilà, et nous progressons actuellement. Nous sommes du côté de Logne, progression lente. Les agriculteurs occupent deux des trois voies de l'autoroute A4. Je vous laisse imaginer l'encombrement que cela provoque. Et c'est un périple qui est long, qui a commencé à 2h du matin. Par exemple pour Patrick qui vient de la Marne.
Si, c'est un petit peu long, mais bon, on le fait par plaisir, on n'a pas le choix. Hein. Si on pouvait faire autrement, on éviterait de le faire, parce que vous savez, on perd quand même une journée, ça nous prend du temps, de l'argent, etc. Mais je crois qu'on n'a pas le choix, c'est ça ou mourir. Ça fait du bien d'être ensemble sur l'autoroute et de voir qu'il y a du monde, parce qu'on ne se sent pas seul. Pour une fois, on n'est pas seul dans nos fermes, et là, ça fait du bien.
Pourquoi venir manifester à nouveau à Paris? C'est la deuxième fois, la dernière grande manifestation, c'était en avril 2010. Eh bien, pour Éloi Taille-Fumier, de la FDSEA de la Marne, la réponse est évidente.
Parce qu'avec Jacques Chirac, on n'avait pas ces soucis-là, parce qu'il écoutait les paysans et on n'avait pas besoin de monter à Paris. Depuis deux, trois présidents de la République qui sont des purs citadins, le dialogue devient difficile. Ils ne comprennent plus trop le monde rural et à chaque fois, on est obligé d'aller leur parler tout près, sinon ils ne comprennent pas.
Il se rapproche donc de plus en plus de Paris. Il reste tout de même 36 km pour atteindre l'avenue Foch, mais ils tiendront en tout cas à se faire entendre dans la ville à coups de klaxon.
Merci Samuel Goldschmidt et notez que la circulation est déjà très difficile hein, autour de Paris sur la Nationale 12 et la Nationale 104. Notez également que des mobilisations sont aussi prévues à Toulouse et dans le Vaucluse avec, je cite, une journée de deuil de l'agriculture vauclusienne. Fin de citation.
RTL Matin, il est 8h03.
La France découvre depuis 24 heures le profil et la vie de ces 13 militaires tombés au Mali.
Des hommes jeunes, âgés de 22 à 43 ans, comme Pierre Bockel. Il avait 28 ans, il allait bientôt être papa. Son père, Jean-Marie Bockel, le sénateur et ancien ministre, était ce matin l'invité de RTL.
Nous sommes dans la peine et nous sommes également dans la fierté de nos enfants. Mon fils, avant d'être militaire, c'était un bon garçon, un bon fils, un fiancé qui l'aimait. Fier de servir son pays, c'était sa quatrième opération extérieure. Il est parti de bonne humeur, joyeux comme chaque fois. Quand il nous en parlait, il essayait de nous rassurer, de minimiser les risques. Évidemment, il savait quel était le risque de son engagement.
Jean-Marie Bockel, dont le fils Pierre est mort avant-hier en mission au Mali, 13 disparus. C'est l'une des plus grandes pertes de l'armée française. Un hommage national sera présidé par Emmanuel Macron dans les prochains jours. Quant aux circonstances de la collision entre les deux hélicoptères, on devrait bientôt en savoir plus puisque les boîtes noires ont été récupérées. 7 militaires venaient de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les autres étaient basés à Gap, dans les Hautes-Alpes, où l'on vous retrouve. Serge Puyot, bonjour.
Bonjour.
Vous trouvez devant leur caserne.
Oui, les drapeaux sont en berne ici à la caserne du 4e régiment de chasseurs de Gap. Mort pour la nation, titre ce matin à la une le Dauphiné libéré, avec les photos de tous les militaires décédés. Et à Gap, l'émotion est toujours aussi forte ce matin parmi la population.
C'est une horreur. Je suis tout cœur avec eux. Ils se sont battus pour nous,
pour défendre nos valeurs et notre pays.
Ils ont donné leur vie pour la France, bien sûr. C'est sûr que c'est leur métier, mais bon, quand même, c'est toujours très choquant pour nous de voir partir des jeunes comme ça, quoi.
Il faut être là, il faut les soutenir, il faut leur dire combien on les admire et tout ce qu'on leur doit.
L'un des quatre militaires gapensés, Valentin Duval, 24 ans, était originaire de Puissanières, un petit village des Hautes-Alpes. Madame le maire Valérie Rossi.
Je connaissais bien Valentin, c'était un beau jeune homme, très actif, amoureux de la montagne. On a du mal à réaliser ce drame. Je pense que tout le monde aurait aimé qu'il poursuive son idéal et qu'il puisse continuer à nous défendre. Il a donné sa vie pour notre liberté à tous.
Voilà, c'est donc tout un département qui pleure aujourd'hui, ses militaires.
Serge Puyot à Gap, pour RTL, où étaient basés quatre des militaires tués avant-hier. Alors depuis 2013 et le début du déploiement au Sahel, la France a perdu, on le rappelle, 41 militaires sur place.
Et pourtant, le terrorisme n'a évidemment toujours pas été éradiqué. Alors, est-ce à dire que les opérations Serval et Barkhane n'ont servi à rien? C'est la question du 8h.
Avec vous, Brice Dugénie, bonjour.
Bonjour.
C'est un échec.
Oui, si l'objectif de l'opération Barkhane était d'éradiquer le terrorisme au Sahel, alors cela ne fonctionne pas jamais. Les groupes islamistes n'ont été aussi actifs. Il y a deux semaines au Burkina Faso, une attaque contre des employés d'une mine d'or a fait près de 40 morts, attentat le plus meurtrier depuis 5 ans. Au Mali, c'est un camp de l'armée qui a été visé au début du mois. Bilan, 50 militaires maliens tués. Mais ce qu'il faut mettre quand même au crédit de l'opération Barkhane, c'est que sans la France, la situation serait largement pire et il y aurait même peut-être déjà un califat en Afrique, au Mali, au Burkina ou au Niger.
Alors qu'est-ce que la France peut faire de plus, Brice ?
Eh bien, trouver des partenaires, c'est-à-dire d'autres pays prêts à s'engager avec Paris, qui est un peu seul dans une zone, le Sahel, qui est vaste comme l'Europe. Alors cela peut être une aide militaire pour combattre les islamistes sur le terrain, comme le font les Français, mais aussi une contribution financière. Parce que l'autre volet de l'opération Barkhane, c'est la formation des armées africaines, aider, former et équiper les armées maliennes, nigériennes, burkinabées, pour qu'un jour, elles assurent seules, c'est-à-dire sans la France, leur défense face à la menace djihadiste. Mais faute de moyens, faute aussi d'organisation, on est encore bien loin de cette réalité.
La question du 8h avec Brice Dugénie.
8h07 sur RTL.
La mobilisation contre la réforme des retraites commence à gagner le secteur privé. Nos informations dans un tout petit instant.
RTL Matin.
8h08 sur RTL, la suite du journal. Jérôme Florin et vous, Yves Calvi.
Les arbitrages définitifs de la réforme des retraites seront connus avant Noël.
C'est ce qu'a précisé Édouard Philippe hier soir devant les députés de la majorité. Le Premier ministre a également annoncé que le texte serait appliqué à différents moments selon les secteurs d'activité. Chaque régime aura sa propre vitesse de transition vers le nouveau système universel. Des précisions apportées à quelques jours de la grève du 5 décembre. Un mouvement qui, bonjour Anaïs Bouissou,
bonjour,
pourrait s'étendre au secteur privé. C'est en tout cas l'espoir des syndicats qui font tout pour mobiliser dans les entreprises.
Oui, entre les tracts distribués, 2,5 millions à ce jour rien que pour la CGT, les assemblées générales avec jusqu'à 1300 délégués mobilisés pour la dernière AG Force Ouvrière en Haute-Garonne par exemple. La montée en puissance sur les réseaux sociaux du hashtag 5 décembre, c'est l'effervescence du jamais vu depuis plus de 20 ans, précise-t-on. Dans les entreprises partout en France, la CGT relève les mobilisations à venir et le compteur grossit de jour en jour. À l'heure actuelle, selon nos informations, rien que dans le secteur agroalimentaire et forestier, plus de 350 entreprises se sont vues déposer un avis d'arrêt de travail chez Panzani en région parisienne, Bonduelle dans le Rhône ou encore Volvic en Auvergne. Des mobilisations à venir également dans le secteur de la chimie, chez Sanofi, chez Michelin, dans l'automobile, Peugeot, Sochaux et même dans les organismes sociaux, les CAF ou Pôle emploi. Tout l'enjeu, c'est de faire mentir le gouvernement qui tente d'associer le 5 décembre en gros à un mouvement de privilégiés, les régimes spéciaux attachés à leurs avantages corporatistes. Chez FO, on se prend même à rêver de mobilisation jusqu'à 25% de taux de grévistes dans les entreprises. Mais vous savez, c'est un peu comme un soufflé au fromage. Là, ça monte dans le four, ça grossit de jour en jour. Encore faut-il qu'il ne fasse pas pchit le 5 décembre.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou. Après avoir pris beaucoup de retard en raison de plusieurs candidats retoqués comme la Française Sylvie Goulard, la nouvelle Commission européenne doit obtenir aujourd'hui le feu vert des eurodéputés. Ce sera la toute première commission présidée par une femme, l'Allemande Ursula von der Leyen. Elle prendra ses fonctions dimanche.
RTL Matin, il est 8h10.
Ce sera sans doute une journée plus difficile que les autres, hein, au procès du meurtre d'Élodie Kulik.
La jeune femme de 24 ans, violée et tuée dans la nuit du 10 au 11 janvier 2003 sur une route de la Somme, avait appelé les secours à l'aide. C'est la dernière fois que l'on aura entendu le son de sa voix. Ces quelques secondes ont été enregistrées et elles seront diffusées tout à l'heure au procès du meurtrier présumé Willy Bardon. On y entend entendrait la voix de l'accusé qui clame depuis toujours son innocence, Frank Hanson.
C'est un dernier appel de 26 secondes d'horreur. Quand elle contacte les pompiers dans cette nuit en rase campagne, Elodie Kulik, paniquée, voit arriver vers elle ses agresseurs. Des hurlements difficilement compréhensibles. Derrière, au moins deux hommes, dont un fort accent picard. Jackie, son père, a tenu à ce que cet enregistrement soit diffusé à l'audience.
Vous allez vous faire une idée du martyr qu'ils ont imposé à ma fille. Il faut l'avoir entendu. C'est insoutenable. Les gens verront bien que ça a été terrible pour elle. C'était terrible. Quelques secondes d'horreur, mais pour moi qui l'entends, une éternité.
Les experts sont partagés pour confirmer que l'une des voix derrière est bien celle de Willy Bardon, l'accusé. Mais plusieurs de ses proches le reconnaissent. Un élément capital pour l'enquête. Fragile, rétorque maître Stéphane Dacco.
C'est 0,9 secondes pour l'un des locuteurs, 1,3 secondes pour l'autre. Je ne suis pas certain que les uns et les autres, vous soyez en capacité d'identifier même un proche sur un temps aussi court d'audition. Pour moi, dès lors que l'élément qui permet aux uns et aux autres de dire « Willy Bardon était présent parce qu'on reconnaît sa voix », si les experts viennent nous dire « c'est pas possible », d'eux, ça posera quand même une vraie difficulté pour l'accusation.
Willy Bardon lui-même s'est dit troublé face aux gendarmes. « On dirait bien ma voix ». Mais j'y étais pas.
Frank Hanson, c'est au tour de Michel Fourniret d'être convoqué aujourd'hui par la juge en charge de l'enquête sur l'affaire Estelle Mouzin. La semaine dernière, on s'en souvient, son ex-femme et complice Monique Olivier a reconnu qu'il n'avait pas passé le fameux coup de fil depuis la Belgique qui lui servait d'alibi. On ne sait toujours pas où se trouvait le tueur en série le soir du 9 janvier 2003 quand la fillette a disparu à Guermantes, en Seine-et-Marne. Et puis un autre rendez-vous judiciaire ce mercredi, plus léger, le chef Marc Vera attaque le guide Michelin devant le tribunal de grande instance de Nantes. Le guide lui a retiré sa troisième étoile pour son restaurant La Maison des Bois. Marc Vera se dit déshonoré.
On va en débattre à 8h20. Les guides gastronomiques ont-ils trop de poids aujourd'hui? Nous serons avec Yves Candebord, le chef du restaurant Le Comptoir, et Gilles Pulowski, qui est critique gastronomique. Le PSG sauve la face contre le Real en Ligue des Champions. Match nul de partout.
Les Parisiens, longtemps menés au score, n'ont réussi à inverser la vapeur qu'en toute fin de match. But de Kylian Mbappé à la 81e minute. Le second signé Pablo Sarabia à la 83e. Mais notre coup de chapeau, il n'est pas pour les Français ni pour les Espagnols ce matin. Il est pour Michel Denisot, invité hier après-midi des Grosses Têtes.
Bon, alors un pronostic quand même, Real Madrid, Paris Saint-Germain.
2-2.
2-2.
Il s'est mouillé, hein. Eh oui.
4 buts, il faut les prévoir quand même.
Et il les a prévus, hein. Denisot, roi du prono, en même temps l'ancien patron du PSG, c'est de quoi il parle.
Il nous a même gagné une Coupe d'Europe. On termine avec l'histoire du jour.
Frayeur à Do, c'est au nord de Toulouse, un morceau d'avion est tombé dans un jardin lors d'un vol d'essai. Une belle pièce d'un mètre de long avec le nom Airbus marqué dessus.
Magnifique.
Personne n'a été blessé. Ouf. Un dernier détail, le propriétaire du jardin est un salarié d'Airbus. Retour à l'envoyeur. En quelque sorte.
Retour à l'envoyeur.